France Culture, il est 18h. Le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. L'Italie maintient ses prévisions budgétaires. Malgré les remontrances de l'Union européenne, le déficit budgétaire pourrait atteindre 2,4%, nettement plus que les exigences de Bruxelles. Les explications d'Isabelle Labéry dans un instant. Donald Trump veut à nouveau envoyer l'armée américaine à la frontière mexicaine, cette fois pour barrer la route à une caravane de migrants venus d'Amérique centrale. Ils sont aujourd'hui environ 7000 sur les routes mexicaines. Un dossier suivi par Loïc Loury à Washington. À 85 ans, Paul Biya est réélu pour un septième mandat à la tête du Cameroun avec plus de 71% des voix. Un scrutin dénoncé par l'opposition camerounaise. Nous verrons cela avec Valérie Crova. Son nom était synonyme de négationnisme. Robert Forisson est mort hier soir chez lui à Vichy. À l'âge de 89 ans, il aura consacré sa carrière universitaire à nier la Shoah. Dans cette édition, les précisions de Cécile de Kervas-Doué et le commentaire de notre invité, l'historien Laurent Joly. Le bras de fer continue entre l'Italie et l'Union européenne. Malgré les critiques de la Commission européenne, la coalition populiste au pouvoir à Rome maintient en l'état son projet de budget 2019. Le gouvernement prévoit un déficit de 2,4% du PIB, soit trois fois plus que les prévisions budgétaires du précédent gouvernement de centre-gauche. Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a fait une petite concession malgré tout. Il s'engage à respecter scrupuleusement ses engagements budgétaires. Isabelle Labéry.
Dans sa lettre de 4 pages, le gouvernement italien reconnaît que son budget n'est pas dans les clous, mais il explique pourquoi il n'a pas le choix. Augmenter les dépenses publiques, appliquer des baisses d'impôts, proposer de meilleures conditions pour les départs en retraite ou créer un revenu de citoyenneté pour les plus modestes sont des mesures indispensable, dit-il, pour faire repartir la croissance. Rome donc ne dévie pas de ses objectifs, mais précise dans le même temps que le déficit fixé à 2,4% du PIB, ratio trois fois supérieur à celui que visait le précédent gouvernement, est un plafond maximal qu'il ne sera pas dépassé et peut-être même pas atteint l'an prochain. Face à la pression des marchés et de Bruxelles, le président du Conseil se veut conciliant.
Nous voulons dialoguer avec les institutions européennes. Nous voulons que cette discussion se déroule dans un esprit de dialogue constructif.
Nous ne sommes pas une bande de têtes brûlées, dit encore Giuseppe Conte, qui, face à la presse étrangère, rappelle en anglais son attachement à l'Union européenne.
Si ce n'était pas clair, lisez bien sur mes lèvres. Pour l'Italie, il n'est en aucun cas question d'Italie exit, de sortie de l'Europe ou de l'eurozone.
L'Italie s'engage également auprès de Bruxelles à réduire d'ici 2021 sa dette, aujourd'hui colossale, pour la faire passer de 132 à environ 126% de son PIB. Le ton est à l'apaisement. La Commission européenne, qui reconnaît explicitement ne pas vouloir de crise avec Rome, examinera demain ses nouvelles propositions.
Isabelle Labéry, merci. La coalition populiste italienne a bâti son succès électoral sur une politique migratoire implacable où la fermeture des frontières aux migrants joue un rôle majeur. Un peu comme Donald Trump aux États-Unis, à 15 jours des élections de mi-mandat, le président américain a trouvé une nouvelle raison de montrer ses muscles. Environ 7000 migrants, honduriens pour la plupart, sont actuellement au Mexique avec l'espoir de rejoindre les États-Unis. Eh bien, Donald Trump s'est juré de faire échouer par tous les moyens cette caravane. Le président américain met en alerte son armée et il menace les pays d'origine de ces migrants. C'est une correspondance de Loïc Loury.
Des criminels et des inconnus venus du Moyen-Orient, c'est ainsi que Donald Trump qualifie aujourd'hui les milliers de personnes, beaucoup de Honduriens qui se dirigent vers son pays. Sur Twitter, le président américain accable le Guatemala, le Honduras et le Salvador, incapables, dit-il, de barrer la route des migrants. Donald Trump menace donc de leur couper des aides financières. Face à cette caravane, le milliardaire attaque également le Mexique et affirme vouloir mobiliser l'armée et les gardes frontières, une urgence nationale selon lui. Ces derniers jours. Ce dossier est devenu un enjeu des élections de mi-mandat dans un petit peu plus de deux semaines. Un dossier sur lequel Donald Trump est très à l'aise. Il en a donc fait son épouvantail de campagne. Une fois de plus, ce matin, il a ainsi visé les démocrates, accusés de permettre l'immigration de masse vers les États-Unis. Il avait par ailleurs déjà relayé une rumeur selon laquelle de l'argent était distribué au Honduras pour pousser la population à rejoindre la caravane. Jusqu'où ira-t-il désormais ? Le président n'a pas encore évoqué son fameux mur à la frontière. frontière mexicaine. Mais à l'approche du scrutin, cela ne devrait pas tarder.
Loïc Loury depuis New York. Donald Trump qui a durci le ton à l'égard de l'Arabie Saoudite dans l'affaire Jamal Khashoggi. Le président américain a dénoncé hier les mensonges de Riyad concernant la mort de l'opposant saoudien à Istanbul. Mais pas question pour lui de remettre en cause les relations commerciales privilégiées américano-saoudiennes. En revanche, l'Allemagne appelle ses partenaires européens à ne plus autoriser les ventes d'armes à Riyad. Pour le ministre allemand de l'économie, Peter Altmaier, il faut un front uni européen pour impressionner le gouvernement saoudien. La France n'a pas encore réagi à cette proposition de Berlin. Paris est l'un des principaux fournisseurs de l'armée saoudienne, comme nous l'explique Tony Fortin, chargé d'études à l'Observatoire des armements.
Alors la France vend des canons César. On assure la maintenance des chars Leclerc, qui sont impliqués dans l'offensive à l'ouest du Yémen. On maintient aussi les frégates saoudiennes qu'on a vendues dans les années 80, dont on a un certain nombre d'indices qui nous montrent qu'elles sont impliquées dans le blocus maritime du Yémen. On vend aussi des drones SAGEM. On vend tout un ensemble de matériel, de l'électronique jusqu'à des munitions. On peut imaginer que, comme le Yémen est aujourd'hui dans une impasse humanitaire et qu'il y a ce meurtre terrible du journaliste, que la France va devoir changer de position à court, à moyen terme. On voit mal comment ça pourrait être tenable d'un point de vue tant juridique, parce que la France est tenue de respecter le traité sur le commerce des armes qui est entré en vigueur en 2014, mais aussi évidemment morale et politique.
Tony Fortin de l'Observatoire des armements, il répondait à Nathalie Hernandez. Au Cameroun, c'est désormais officiel. Le président sortant, Paul Biya, a été réélu pour un 7e mandat de 5 ans. Il a obtenu 71,28% des voix contre 14,23% à son principal opposant, Maurice Kamto. Cela fait 35 ans que Paul Biya dirige d'une main de fer le Cameroun. Il a aujourd'hui 85 ans. Valérie Crova, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez au Cameroun il y a quelques semaines où vous avez suivi en partie la campagne présidentielle. Cette réélection de Paul Biya était en fait jouée d'avance.
Oui, et la question n'était pas de savoir si Paul Biya sortirait vainqueur, mais quel serait son score, à tel point que le président de Guinée équatoriale n'a pas pris la peine d'attendre les résultats. Quant à lui, il a félicité Paul Biya dès hier soir pour sa réélection. Alors les deux hommes partagent un point commun. À 85 ans, Biya est le doyen des chefs d'État africains. Obiang Nguema a quant à lui le record de longévité au pouvoir. Avec 71% des voix, Paul Biya a donc fait un peu moins bien qu'en 2011. Ses résultats doivent toutefois être relativisés quand on sait que son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a tout verrouillé pour que l'octogénaire reste à la tête du pays. Les recours en annulation des trois principaux candidats de l'opposition qui avaient dénoncé des fraudes massives durant le vote n'ont pas été retenus, tout comme le recours déposé par Maurice Kamto, arrivé en seconde position. Il avait demandé que 6 membres du Conseil constitutionnel soient récusés, car notoirement proches du parti au pouvoir. Pour dissuader toute velléité de contestation, des camions anti-émeutes, des policiers et des militaires ont été déployés ce matin dans la capitale Yaoundé, où des appels à manifester circulaient sur les réseaux sociaux. Les détracteurs de Paul Biya dénoncent quant à eux une parodie d'élection, une mauvaise farce. Ainsi, l'association Survie appelle la France à ne pas reconnaître les résultats et à suspendre toute coopération avec le régime camerounais.
Valérie Crova, merci. C'était sans doute avec Roger Garaudy, le plus célèbre des négationnistes français. Robert Forisson est mort hier soir à son domicile de Vichy. Il avait 89 ans. Robert Forisson, qui aura consacré sa carrière universitaire à nier l'existence de la Shoah et des chambres à gaz. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Un négationnisme assumé qui lui aura valu plusieurs condamnations.
Le génocide des Juifs par les nazis serait un mensonge. Les chambres à gaz n'auraient jamais été utilisées pour tuer des gens, mais pour les épouiller. Les déportés seraient morts de maladie ou de malnutrition et auraient ensuite inventé la solution finale pour récolter des dommages de guerre. C'est pour ce genre de thèse que Robert Forisson a été effectivement maintes fois condamné en justice. Maintes fois aussi, il a intenté des procès en diffamation. En 2007, par exemple, il est débouté face à Robert Badinter, qui avait rappelé son propre passé familial et personnel.
Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire, des faussaires de l'histoire et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir.
La carrière du négationniste français a presque commencé pourtant par hasard. Jusqu'à la fin des années 70, Robert Forisson est d'abord un professeur de lettres à la carrière chaotique, connu pour ses insultes et ses brutalités vis-à-vis de ses élèves, surtout ceux d'origine algérienne. Il rejoint l'université de Lyon 2 en 73, mais ses cours ont peu de succès et très vite il les donnera d'ailleurs par correspondance. Dans les années 60, il est arrêté à deux reprises et incarcéré une quinzaine de jours pour insulte au chef de l'État. Chaque fois, les rapports d'expertise médicale notent l'état d'extrême exaltation de Robert Forisson, ce qui atténue d'ailleurs sa responsabilité. Dans les années 70, devant le peu de succès de ses publications littéraires, il se lance dans le négationnisme et rejoint les courants d'extrême droite. C'est la lettre que le journal Le Monde publie en 1978 qui va finalement lui donner un tremplin vers la célébrité. Le problème des chambres à gaz ou la rumeur d'Auschwitz lui permet en effet de faire état de ses théories et la polémique qui suit lui donne enfin une tribune. Dans les années 80, les procès qui se suivent presque chaque année servent encore sa célébrité. En 1991, il est le premier justiciable français à être condamné en vertu de la loi Guesso de 90 et sera condamné à trois reprises pour contestation de crimes contre l'humanité. Invoquant sans cesse la liberté d'expression, Robert Forisson devient néanmoins au fil des scandales une icône du négationnisme français et rallie non seulement l'extrême droite mais aussi certains de l'ultra-gauche et le courant anti-sioniste arabo-musulman, avec notamment le soutien de l'Iran et celui du polémiste Dieudonné.
Cécile de Kervas-Doué, merci. Invité de ce journal, l'historien Laurent Joly, spécialiste de l'antisémitisme en France. Bonsoir.
Bonsoir.
Laurent Joly, comment vous expliquez-vous cette très très longue carrière négationniste de Robert Forisson ?
Mais d'abord, il est un petit peu, à la fin des années 70, celui qui va relancer le négationnisme. Il y avait déjà eu avant lui, il y avait eu Bardèche, il y avait eu Racigny, il y avait eu quelques auteurs. Et lui va le relancer en profitant, vous l'avez dit dans votre reportage, de cette tribune du Monde. Et surtout, en jouant de l'image d'un universitaire, de quelqu'un qui voudrait faire un débat avec les historiens établis, à partir de sources, à partir d'interprétations, etc. Donc c'est toujours présenté comme un savant, ce qui n'était évidemment pas.
Est-ce qu'il a bénéficié de la complaisance d'une certaine partie de l'université française ?
Ah non, ça on peut pas le dire, absolument pas. Il était vraiment au banc d'université, votre reportage l'a rappelé. Il n'a pas fait une carrière de négationniste dans l'université, ça faut quand même le préciser. C'est en dehors de l'université qu'il l'a fait, puisqu'à partir de 78-79, il n'enseigne plus, il est écarté d'université. Donc, il a bénéficié de la polémique à la base, la polémique qu'il avait eu autour des propos d'Arquette de Pellepoix dans l'Express. À Auschwitz, on n'a gardé que des pouces, ça avait fait un immense scandale. Donc, ça faisait des années que Forisson il bombardait la presse de ses textes. Et là, Le Monde a commis effectivement cette erreur de publier en disant bon ben on va ouvrir et on va le contredire. Et c'est deux autres historiens qui l'avaient contredit. Mais voilà, la botte de Pandore était ouverte. Et à partir de là, par le jeu du droit de réponse, il a toujours pu, et puis par les procès qu'il faisait, parce qu'il était très procédurier, il connaissait très bien le droit, il arrivait toujours à faire parler de lui. Il utilisait les procès comme des tribunes.
Alors Serge Klarsfeld dit que Robert Forisson aura finalement obligé les historiens à améliorer la connaissance de la Shoah, notamment en direction du grand public. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Serge Klarsfeld ?
Oui, c'est très juste. Ça a d'abord obligé les historiens à se pencher sur des questions techniques. Il y a notamment eu un disciple de Forisson qui a retourné sa veste en allant voir les plans à Auschwitz, donc en prouvant que techniquement Forisson mentait. Donc oui, ça a obligé les historiens à se pencher sur un tas de questions qu'ils n'avaient pas encore traitées et surtout à essayer de répondre de manière intelligible, claire, simple, parce que Forisson était un grand sophiste, donc il bombardait les gens de détails d'informations. Donc si les historiens répondaient que par d'autres détails, vous voyez, ça pouvait être difficile. Et des gens comme Pierre Vidal-Naquet ont réussi pour un large public à faire comprendre que c'était vraiment des mensonges.
Laurent Joly, comment vous expliquez que malgré ce travail de recherche autour de la Shoah, il y ait toujours un négationnisme latent en France ?
Il y en aura toujours, c'est comme ça, ça fait partie de l'histoire de la Shoah. Vous savez, dès le départ, les génocidaires, les nazis, ont éliminé les traces de leurs crimes et l'ont nié, donc il y aura toujours des négateurs. Alors, il faut qu'il y en ait le moins possible, mais on ne peut pas rêver d'un monde où il n'y aura pas de négateurs de la solution finale. D'autant plus que maintenant, il n'y a pratiquement plus de témoins, donc voilà, il faut être relativement inquiet et vigilant sur l'avenir, parce que il y en aura toujours, et le recul du temps faisant, il y aura toujours des gens qui inventeront des théories absurdes qui pourront être crues.
Faurisson disparu, est-ce qu'il y a des gens susceptibles, malheureusement, de prendre sa succession sur la scène publique ?
Alors, sur la scène publique, vous savez, il n'y a plus personne, puisque, heureusement, nous avons la loi Guesso. Elle a été beaucoup critiquée par les historiens, mais elle nous a quand même débarrassé de Faurisson, parce que jusqu'en 90, Faurisson, vous l'avez dit dans votre reportage, tous les ans, on parlait de lui dans les médias parce qu'il y avait un procès. À partir de là, il a été juste un détenu un condamné de droit commun. Vous voyez, c'est un délinquant. Et donc, il a été condamné 3 fois comme délinquant. Et donc, du coup, effectivement, il y a moins la place dans la sphère publique de ça, mais vous avez les alternatives, vous avez Dieudonné, vous avez des gens qui peuvent jouer encore cette carte-là, mais dans une sphère alternative. Mais elle est dangereuse parce que c'est sur Internet, parce qu'il y a des spectacles, etc. Mais il n'y a pas de successeur, en tout cas intellectuel, en France. Faurisson était un petit peu isolé. Le dernier procès en 2017, j'y étais, il y avait une 20aine de partisans. Donc voilà, et c'était surtout à l'étranger qu'il était encore, entre guillemets, connu, en Iran. Il avait notamment beaucoup d'admirateurs en Iran. Donc vous voyez, en France, il n'y a pas, heureusement, pas vraiment de relève dans son genre.
Laurent Joly, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru cette année. L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite, un livre paru chez Grasset. Le 4 novembre prochain, la Nouvelle-Calédonie votera pour ou contre son indépendance, un référendum prévu dans les accords de Nouméa de 1998. Les derniers sondages donnent un très large avantage aux partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Alors la campagne officielle a débuté aujourd'hui dans un climat plutôt apaisé. C'est en tout cas ce que nous décrit Claudine Véry, correspondante à Nouméa de l'AFP et du journal Le Monde.
C'est une échéance qui a été extrêmement redoutée en Nouvelle-Calédonie, mais le climat de la campagne a été relativement serein et calme. On peut franchement pas dire qu'on sent de tension sur le territoire en ce moment à l'approche du vote.
Est-ce que les gens se sont emparés de la question ?
Non, assez peu parce que pour plusieurs raisons, parce que le suspense est quand même limité. On sait, d'après ce qu'on dit tous les sondages, que le non à l'indépendance devrait l'emporter. Ensuite, je pense que la population a d'autres préoccupations, le repli de l'économie, la vie chère, qui ont peut-être pris le pas finalement sur l'intérêt pour ce débat et pour le référendum.
Est-ce que ça signifie qu'on peut s'attendre à une abstention assez forte sur ce scrutin ?
Non, je pense pas qu'il y aura forcément une abstention forte, même si celle du côté de l'électorat kanak reste un peu une inconnue, puisque c'est quand même dans le camp indépendantiste, l'abstention est souvent la plus forte. Donc je pense que les gens iront voter, sauf que je crois que beaucoup pensent que les jeux sont faits, et les indépendantistes se disent aussi, du moins c'est leur discours, qu'après il y a, comme le permet l'accord de Nouméa, peut-être un deuxième et un troisième référendum, et que de toute façon le processus de décolonisation en cours en Nouvelle-Calédonie ne s'arrêtera pas le 4 novembre.
Claudine Véry de l'AFP répondait à Stéphane Robert. Emmanuel Macron était dans l'Aude aujourd'hui, une semaine après les intempéries qui ont fait 14 morts autour de Carcassonne. Le président a promis une aide financière d'au moins 80 millions d'euros pour aider les communes sinistrées. Somme destinée à indemniser les biens non assurables des collectivités comme les routes ou les réseaux d'eau. Et ce matin, le chef de l'État était dans la commune de Villallier à la rencontre des habitants victimes des inondations. C'est un reportage de Benjamin Mathieu.
Bonjour, madame.
René Orteuse.
René et Bernard accueillent Emmanuel Macron devant leur maison dévastée.
Le moral est bon.
Pour l'instant, ça va.
En vêtements et en bottes pleines de boue, il lui montre les photos de la catastrophe.
Mais on va faire ce qu'il faut.
On s'est bien soudés.
Un réconfort bienvenu.
Ah, c'est les copains, là.
Oui.
Le président de la République a un mot pour chacun. Il repart après une vingtaine de minutes.
Bon courage.
Merci beaucoup d'être venu, monsieur le président.
Bon courage à vous.
Axel vit ici avec son compagnon et leur fils de 2 ans. Elle s'est sentie écoutée.
Moi, je lui ai expliqué qu'on avait un crédit qui nous restait plus de 25 ans encore à payer, qu'on ne pouvait pas vivre, qu'on ne pouvait pas payer le crédit maison dans lequel on ne vivait pas, plus un autre crédit. Honnêtement, là, c'est impossible. Il a dit qu'il s'en occuperait.
Il y a même un peu de concret pour René.
Il a
amené avec lui le président donc, des assurances de France, déjà. C'est pas mal qu'il nous a laissé sa carte. Et puis,
ah oui, ça, c'est très concret.
Ça, c'est du concret, oui. Et il nous a dit que si on avait besoin de lui, on pouvait l'appeler.
Mais le quotidien de Christophe Bigou ne va pas changer pour autant.
Le président s'en va, là. Vous allez faire quoi cet après-midi?
On va continuer encore à nettoyer parce qu'il reste encore plein de choses à trier, à nettoyer.
Encore du travail.
Des habitants qui vont changer de vie, plus personne n'envisage de rester habiter ici.
Le reportage dans l'Aude de Benjamin Mathieu. Un mot du temps demain, de la grisaille sur les trois quarts du pays avant le retour du soleil en cours de journée. Sur les régions méditerranéennes, le ciel bleu s'imposera dès le matin. Température minimale de 1 à 7 degrés sur la moitié nord et même un petit risque de gelée de la Picardie à la Lorraine. Au sud, ces minimales iront de 5 à 15 degrés. Pour les maximales, de 14 à 19 degrés sur la moitié nord, 16 à 24 au sud de la Loire. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Julien Loquet. We'll be right back.